Bonjour à tous et bienvenue pour ce 7e épisode de l'Another Podcast. Aujourd'hui, nous sommes 5 pour présenter l'émission. Il y a moi-même, François,
Laurent,
Alain,
David
et Dominique.
Aujourd'hui, nous avons plein d'actualités sur la table. Nous allons tout de suite attaquer un dossier spécial console. Nous allons parler notamment de rétro gaming et également des nouvelles consoles qui est de dernière génération. Alors, moi, la news qui m'a particulièrement
intéressé.
Intéressé, intrigué.
Subjugué.
Quel suspense.
Quel mot va-t-il
interpellé.
Oh là là.
Interpellé.
Voilà, voilà.
La news qui m'a particulièrement interpellé, c'est la sortie d'une console Super NES.
NES, je crois.
NES.
NES.
Waouh.
En aluminium, en alliage d'aluminium.
Waouh.
Avec des composants d'origine.
Voilà.
Oh, bah, alors,
ce qui veut dire
c'est pas de l'émulation, ça lui vraiment les jeux NES et Famicom, c'est-à-dire la NES japonaise, ce qui est assez rare en fait.
Donc ce qui fait que si on n'a pas de jeux originaux, on ne pourra pas jouer à cette console.
Non, mais dans son salon.
C'est bien.
Donc ceci est dû au fait que donc il y a plus en plus de personnes qui vont rechercher sur des sites genre eBay etc pour trouver une vieille NES qui traîne. Et eux ont trouvé la solution pour combler à cette rupture, bah, c'est d'en refabriquer une, tout simplement, avec quelque chose en plus. Donc là, c'est un alliage en aluminium. À noter que cette compagnie, donc Analog Interactive, avait précédemment sorti une Neo Geo en bois.
Wow, oui.
Elle est super jolie, hein. J'ai vu des photos, elle est magnifique.
Alors, avec la manette aussi en bois.
Ouais.
Alors, comptez quand même $650.
Mais là, voilà.
C'est un vrai objet de collection aussi, c'est pas un truc en alu, c'est quand même beau, c'est du bois.
Mais combien coûte une Neo Geo maintenant sur le marché d'occasion? Très cher, je pense que ça vaut plus que 650.
Les collectionneurs en même temps ils sont prêts à tout.
Par contre, oui, je suis pas sûr que j'aurais peut-être avoir celle-là en bois et une autre à côté pour mettre mes cartouches ou un émulateur. Je suis pas sûr que j'oserais mettre mes cartouches dans une console à 650. Je la laisse dans la boîte.
Après, pour ceux qui ont déjà la Neo Geo, ils peuvent très bien acheter le stick arcade qui lui est en bois. Mais depuis le lancement de la NES, il y a plus de 25 ans qui sont écoulés maintenant, hein. Ça nous fait vivre d'un grand coup. Et c'est vrai que comme il est difficile de trouver des exemplaires, donc eux ont réutilisé les mêmes composants afin d'utiliser les mêmes cartouches. Est-ce qu'on trouve autant de cartouches si facilement?
C'est de plus en plus dur. C'est de plus en plus dur parce que justement beaucoup de collectionneurs recherchent forcément peut-être les mêmes jeux, donc il y a certains jeux qui deviennent super rares.
Après, trouver des cartouches, c'est pas le problème. Trouver la cartouche que tu veux,
voilà.
C'est autre chose.
C'est le prix aussi, je pense, c'est le gros problème surtout.
Après, bon voilà, on cherche Mario 1, ou même Zelda, on va le trouver. Après, des jeux plus rares, ou après, suivant l'état, s'il y a la boîte en carton,
exactement.
Alors ça, la boîte en carton, celui qui a encore la boîte en carton, c'est. Voilà.
Donc, à noter qu'au niveau des sorties vidéo, il y aura un éventail un peu plus large, puisqu'on aura une sortie vidéo composite, on en retrouvera une sortie RGB. Donc,
pas de sortie HDMI,
hein. Merde, ni DVI. Donc le seul inconnu actuellement, c'est la date de sortie de cette console. On sait qu'elle est annoncée, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle sortira. Et on ne connaît pas non plus le prix, qui à mon avis atteindra des sommets, hein, vu le prix de la Neo Geo.
Moins cher qu'une Neo Geo, c'est logique. C'est pas possible. C'est pas possible qu'une NES soit plus chère qu'une Neo Geo. Non.
On verra.
Non, pas possible.
Alors David, je sais que toi tu nous avais préparé un petit dossier spécial.
Voilà, comme on parlait de la NES en alu, bah, je pensais expliquer ce qu'était le rétro gaming. Qu'est-ce que le rétro gaming? Alors, le rétro gaming, en anglais on dirait plutôt retro gaming. Parce que c'est
retro
français,
gaming.
Là, rétro, ça.
C'est du latin, rétro.
Ouais, mais gaming c'est pas très latin.
Rétro, Satanas.
Je crois que mon sujet va être long à démarrer. Hein.
C'est pas grave.
Alors le rétro gaming, ça consiste à la base à s'intéresser aux jeux vidéo anciens, donc considérés comme rétro. On doit ce phénomène en grande partie grâce à Internet. Ça a permis aux gens d'avoir conscience, de connaissance de pas mal de jeux.
Et avant, comment on partageait les jeux? On les copiait de disquette en disquette.
Cassette et tout, c'était compliqué.
Cassette, ouais.
C'est toi qui parlais, t'écoutais des émissions radio où ils diffusaient un jeu.
Hey, on pourrait peut-être le faire. On diffuse un son que les gens mettent sur cassette, puis ils mettent dans leur ordinateur à cassette, et ils peuvent jouer le jeu ou le programme. Ouais.
C'est,
quoi, ouais,
oui. C'est vrai que t'empêches, faudrait les retrouver les trucs comme ça à cassette, hein, parce que
c'est
quasiment introuvable. Je sais pas s'il y a un site de MP3 où on peut trouver des MP3 de jeux CPC par exemple.
Beaucoup de monde qui cherche.
Commodore.
Mais bon, c'est techniquement faisable.
Oui David, nous allons pourrir ton sujet de temps en temps.
Moi je m'intéresse essentiellement à rétro gaming console, hein, d'une certaine manière. Et donc voilà, donc Internet ça a permis la communication et surtout l'émulation, qui demeure une cause importante du regain d'intérêt pour les jeux anciens.
Bah, c'est grâce d'ailleurs à l'émulation qu'on a tous pu tester des jeux qu'on n'avait jamais pu tester à l'époque. Et...
Et une quinzaine d'années, donc l'émulation a permis aux joueurs de redécouvrir les jeux préférés de Super Nintendo, NES, Mega Drive, c'est ce que tu disais aussi, et directement donc sur leur PC via un émulateur. Et en plus de ce côté nostalgique très présent, ça a permis à une grande majorité de joueurs de tester des systèmes qui étaient hors de prix à la sortie des machines ou alors très peu connus.
Il y a un point aussi, c'est que à ce moment-là, on commençait à avoir les cartes, enfin les PC suffisamment puissants. Ça fait bizarre de dire c'était pour 96. Pour émuler tourner, bonne partie. Je me souviens des premiers émulateurs que j'ai testés donc dans ces années-là. Les émulateurs commençaient à ramer même sur des émulateurs de PC Engine.
Ah, moi, je me souviens qu'avec un 160 MHz, tu faisais tourner un émulateur Neo Geo.
Voilà, donc
et ça ramait pas. Tu mettais 5 minutes à charger parce qu'il n'y avait pas assez de RAM, mais le jeu, il marchait nickel.
Chose étonnante, justement, on avait du mal à faire tourner un émulateur Super Nintendo, alors qu'un émulateur, l'émulateur Neo Geo, quand il est sorti, il tournait nickel. Il faisait peut-être marcher que deux jeux, mais il tournait
franchement. C'était la guerre des émulateurs. Tu as vu quoi maintenant sur un téléphone portable, on fait un tour d'un émulateur PlayStation, bon.
Et ça marche bien.
C'est pas pratique, mais ça marche bien.
Si, on peut brancher un pad.
Voilà, donc elle a permis de découvrir la Neo Geo pour certaines personnes qui n'ont pas pu la tester en arcade.
Ouais, voilà, si tu veux faire. Ou qui n'avaient pas de copains.
Voilà. Et également donc la PC Engine, parce que la PC Engine, elle est quand même très peu connue pour les joueurs de jeux vidéo à l'époque. Elle a très bien fonctionné au Japon, mais elle a été très peu distribuée dans le reste du monde. Mmh. Et donc, très rares sont les joueurs français à avoir joué à la PC Engine dans les années 90. Donc, pour donner un petit détail, donc c'est la console de NEC, c'est la première console de NEC qui est parue en 87 au Japon. Et ça avait beau être la concurrence de la Nintendo ou de la Master System, elle était au-dessus graphiquement. C'était une 8 bits, mais on disait presque que c'était au niveau de la 16 bits, quoi, graphiquement.
On s'en rapprochait.
Surtout qu'il y a eu la CD, plus tard il y a eu plusieurs
il y a eu une version, déclinaison,
voilà. Ouais. Alors, le jeu le plus connu de la PC Engine...
C'est Kid.
Voilà, c'est
Ducky Chan.
Ou Bonk, on peut appeler Bonk aussi. Bonk. Voilà. C'est un jeu avec un homme préhistorique et un gros crâne qui l'utilise pour vaincre ses ennemis. C'est un petit peu le Mario ou le Sonic de la console, quoi. Et donc, c'est une console qui possède aussi beaucoup de shoot'em up. Et voilà, c'est ça le problème, je pense. Si on fait, en gros, les consoles qui n'ont pas fonctionné en France, c'est les consoles qui ont beaucoup de shoot'em up, comme la Saturn. Très peu sorties en France, mais il y en avait énormément au Japon. La Dreamcast aussi, un petit peu, les consoles très arcade finalement.
La Saturn, justement, j'ai vu un test il y a pas longtemps, enfin pas un test, un
reportage.
Un sondage sur GameCult. Quelle était la pire mauvaise, la plus mauvaise console de Sega?
À part la Jaguar? Ah non, c'est pas la Sega, pardon.
La plus mauvaise console de Sega. La première, la Saturn. En dessous de la 32X.
Waouh!
Alors ça.
Mais c'est parce que les gens ne sont pas au courant, ils connaissent pas vraiment les jeux.
Bah oui.
C'est pas possible.
Il y a eu des
32X, c'était un flop. Il y a eu.
Il y a peu de gens qui connaissaient, mais ceux qui connaissaient tout avec tous les jeux.
Il y a eu 10 jeux qui sont sortis dessus et peut-être 15, allez, à tout casser, mais que des navets. Quoi.
Mais les jeux sont sortis dans une indifférence totale. Moi, je me souviens
que des gamins de 15 ans à l'heure actuelle qui ont voté, ils savent pas ce que c'est.
Et le problème, c'est aussi qu'elle est très mal émulée aussi. Je crois qu'elle est encore très peu émulée. Il y a plein de jeux qui sont pas émulés aussi encore.
Ah, c'est possible.
Comparé à la PlayStation qui a été émulée genre 5 ans après, la Saturn, même maintenant, les gens s'en soucient peu. Et par exemple, moi je me souviens avoir essayé Story of Thor sur Saturn, je l'ai acheté à sa sortie.
Ah, il était très bien.
Et il était très bien, mais il est sorti dans une indifférence mais totale. Ouais. Mais personne n'en a parlé, alors que pour moi il était du même niveau que celui de la Mega Drive.
En même temps, la Saturn, si on reste sur le répertoire européen, il manque beaucoup.
Ouais.
Il y a eu énormément de bons jeux au Japon, en France, en Europe. Même aux États-Unis, pas grand-chose.
Bah, la PlayStation était trop omniprésente, je pense.
Même Radio Silvergun n'est pas sorti en Europe.
Ouais. Ah bah ça, c'est un des soucis qui m'a toujours éloigné du monde des consoles. C'est le fait d'avoir des versions internationales, des jeux qui passaient sur telle console et pas sur autre. Mmh. Il fallait même des câbles vidéo différents selon ta console pour le brancher.
Et quelquefois, le même jeu était différent selon la version japonaise. Ouais. Dragon Ball, c'était le cas.
C'est-à-dire, il y avait quoi?
T'avais une version où c'était super rapide et l'autre version c'était lent.
C'est les questions de frames en fait. En européen on est à 50 frames par seconde.
Entre le PAL et le NTFC, il y a toujours une différence de fréquence.
En japonais et américain on est à 60 et 50 en européen, donc voilà, ça change la vitesse. Alors, donc pour continuer, on va dire que l'émulation, donc on a parlé de la Neo Geo, la PC Engine, elle a aussi permis avec même d'avoir accès à tous les jeux au système arcade, parce que c'est quand même le plus grand émulateur qui réunit tout. Et ça a permis aux joueurs nostalgiques de retrouver les sensations et les graphismes de l'arcade, surtout que On voit que c'est un marché déjà florissant, puisqu'il y a déjà eu très tôt des sticks arcade pour PC, ouais. Alors qu'on était au tout début, quoi. Il y a genre 12 ans, 10 ans, il y avait déjà des sticks arcade PC.
Ouais.
Donc le retro gaming, ou de son côté nostalgique, c'est pour certains aussi une façon de jouer sans se soucier de l'actualité, sans se soucier des sorties actuelles, mmh. et donc d'être en retrait du monde du jeu vidéo d'aujourd'hui, qui est beaucoup plus porté sur l'argent et le succès commercial, plus que l'originalité des jeux.
Même sur les jeux actuels, on y revient quand tu vois des jeux, enfin c'est de la 3D, un jeu, je pense à Minecraft ou Terraria ou des jeux comme ça, c'est des jeux récents, actuels, modernes, développés
il y a pas longtemps, le jeu.
Mais c'est presque du retro gaming, du méta retro gaming, je sais pas quel terme
le jeu rock.
Mais la grande question, c'est pas. Nous, on est habitués aux jeux 2D. Est-ce qu'un jeune, maintenant, va attaquer un jeu 2D? Est-ce qu'il va en prendre autant de plaisir que nous, on
en a? Je vais en parler après, ça, t'inquiète pas.
Il suffit de voir les jeunes avec. Enfin, c'est pas 2D, mais c'est Minecraft.
Minecraft, ouais.
C'est super moche. Mais les gamins adorent. Moi, j'ai vu, pas plus tard qu'aujourd'hui, des enfants de 6ème, ils s'amusaient avec Paint, ils dessinaient des gros carrés. Sur Minecraft et ils faisaient des dessins à la Minecraft en... ça faisait des gros pixels comme nous on faisait à l'époque avec un crayon optique et encore quoi. Non mais c'est vrai, c'est intemporel ça.
Donc pour certains, on va dire les développeurs aujourd'hui, ils passent plus de temps à élaborer le moteur ou les graphismes du jeu que le scénario, l'intérêt global du jeu. Et ça pourrait être d'ailleurs un débat intéressant. Est-ce que le réalisme du jeu vidéo actuel est nécessaire?
Par contre, je vais peut-être vous couper puisque
je vois
la porte qui bouge, donc peut-être pas pause musicale, mais en tout cas intervenant pour sûr. On fait une petite pause, on se retrouve juste après pour ce dossier spécial console.
On continue sur le rétro gaming.
Oui, et nous sommes toujours sur la radio de la
France. Parce qu'on aurait pu changer de radio, on aurait pu être rétro gaming radio ou quelque chose comme ça. Aujourd'hui, le rétro gaming, il est tellement florissant que même les développeurs et les éditeurs s'intéressent parce qu'ils voient qu'il y a un moyen de gagner de l'argent. Donc déjà de plusieurs manières, déjà sur les plateformes que sont le PlayStation Store, le Xbox Live ou même Nintendo. C'est possible d'acheter l'ancien jeu de façon dématérialisée à faible coût. Il y a également le retour de beaucoup d'anciens jeux. Je pense à Double Dragon avec le récent Double Dragon Neo qui était déjà pas très bon, je trouvais. Mais
on peut prendre non. Strider, il est bien.
Toujours dans la 2D, il y a eu Rayman Legend. Il y a eu Dragon's Crown sur PS3, qui est une exclu PS3 qui est un beat'em all avec des éléments RPG et qui est vraiment un très très bon jeu.
C'est une catégorie de jeux, c'est vrai que les jeux de combat, les jeux de plateforme, les shoot'em up, enfin la 3D va pas forcément apporter grand chose, c'est vrai.
C'est ça.
Il y a des types de jeux.
La 2D revient en force parce qu'elle a été oubliée un moment et là on a vraiment l'impression que.
Des fois, ce qui est bien, c'est qu'ils refont des jeux 2D, des suites de jeux 2D en 3D. Mais la jouabilité est 2D.
Voilà.
Oui, c'est
donc
ça.
Le jeu est beaucoup plus beau, il est plus sympa, parce qu'évidemment, il y a plus d'effets, plus de choses sympas, mais...
Tu penses à Street Fighter 4, par exemple.
Street Fighter 4, oui. Même à l'époque du Castlevania Symphony of the Night, il y avait beaucoup de... C'était un jeu en 2D, mais il y avait pas mal d'effets 3D à l'époque.
Est-ce que c'est vraiment de la 3D? Oui, c'est pas
évident. Il y avait des effets 3D, des ports, des machins, certaines choses étaient en 3D, et ça rendait bien, ça faisait un petit mélange de 2D-3D.
C'était plus en relief qu'en 3D, on va dire.
On peut dire ça.
Ah. D'accord.
Mais ça rajoutait quand même pas mal à l'époque.
Alors la stratégie Nintendo aussi, c'est important d'en parler parce qu'elle est énormément basée sur la nostalgie. Y a le côté casual avec la Wii, tout ça. Mais pour moi, il y a très peu d'idées nouvelles chez Nintendo. Il y a beaucoup d'anciens jeux adaptés.
C'est faux, regarde Mario Kart.
Voilà, voilà.
Super Mario Bros. Bah, Wii U. New Wii.
En fait, ce qu'on sait pas, c'est le titre. Comment va-t-il s'appeler? C'est ça le suspense.
Ah,
il y a eu Zelda A Link Between Swords sur 3DS qui, je pense, je le connais pas, j'ai pas essayé, mais qui est la suite de Zelda A Link to the Past.
Je l'ai fini.
Ouais. Et alors, c'est quoi?
Il est excellent.
Ouais.
Il est excellent. C'est un super jeu. Je le conseille à tout le monde.
D'accord.
Enfin, évidemment, il faut avoir une 3DS, mais franchement, très très bon jeu. Pour moi, le meilleur Zelda, c'était celui de la Super Nintendo. Y a pas photo, c'est une super suite, plutôt un super remake. Prenant pour finir.
C'est ça
il est trop court.
C'est ça le truc, c'est que Nintendo, ils ont une stratégie de réadapter les choses, mais ils le font bien. Ils font des bons jeux avec. Voilà. Mais c'est un peu, quand même, on va dire, un petit peu fainéant, une manière de faire ça. Il y a très peu de nouvelles idées. Bah,
ils surfent un peu sur la nostalgie, honnêtement.
Parce que j'ai pas fini, j'ai aussi les Mario, j'ai les Donkey Kong, et encore. Kirby, quand même, Kirby qu'on n'a pas vu depuis la NES ou la Super, je crois qu'il y a eu des épisodes 64, mais on n'en a pas entendu parler.
Est-ce que la 3D, justement, on arrive à une époque où il y a toujours eu des casques virtuels, des choses comme ça et tout, mais là, la 3D, on a presque les écrans 3D naturels dans les consoles portables, bientôt dans les téléphones aussi, etc. Ouais. Justement, peut-être que là, les développeurs vont penser différemment. Le fait que la 3D, on soit plus obligé de passer par des casques ou des équipements compliqués, quoi, donc ça a peut-être influencé les développeurs au niveau de la façon de penser les jeux.
Pour l'instant, la 3DS, en tout cas, ça fonctionne pas trop. Il n'y a pas énormément de développeurs qui se lancent dessus.
Qui exploitent vraiment le.
Il n'y a pas énormément de jeux.
La vision 3D.
De jeux dessus, quand même. Après,
elle marche bien quand même au niveau des chiffres. au niveau des chiffres, elle fonctionne
bien. Il va peut-être falloir attendre
les Japon, premiers... elle est devant toutes les autres consoles, au niveau des ventes.
Il va peut-être falloir attendre les premiers écrans holographiques pour avoir vraiment des jeux adaptés vraiment en 3D.
Il y a pas mal de gens à qui je fais tester la 3DS, ils ont quand même du mal à s'adapter.
Ah non, oui, d'accord, mais moi je parle au niveau vraiment commercial. Là, la démarche, elle est commerciale, c'est-à-dire que Nintendo, leur but, c'est basé sur la nostalgie. Ouais. Après, oui.
Mais Nintendo a toujours fonctionné comme ça, il va sortir un nouveau Mario, il va vendre je sais pas combien
de centaines. Oui, mais ils ont pas toujours fonctionné comme ça, parce qu'à l'époque de la NES et la Super NES, il y avait rien, il fallait bien établir des bases. Donc il y a un moment, il y a un côté créateur et il retrouve plus, j'ai l'impression. Quoi.
Oui.
Voilà, je vais attaquer la dernière partie. Donc on va parler donc des collectionneurs et les moyens de procurer les anciens jeux. Donc bah pour moi, le mieux, ça reste quand même les braderies, les vide-greniers, parce qu'en se levant très tôt, on peut toujours tomber sur des bonnes affaires, des gens qui connaissent pas. Moi, je me souviens que même il y a 10-12 ans, avant les années 2000, il y a quelqu'un qui avait acheté des jeux Neo Geo à 10 euros parce que c'était une grand-mère qui les vendait et elle connaissait pas. Donc on peut toujours tomber sur des bonnes affaires. Donc des fois, il y a des vendeurs qui vont se débarrasser des vieux jeux sans vraiment connaître la valeur des jeux. Après, bon, il y a le bon coin, il y a eBay, donc pas Internet, mais les jeux restent essentiellement très très chers, on va dire, puisque les gens connaissent la valeur des jeux et dès que c'est rare, ça prend dessus des proportions.
On peut même tomber sur des versions dorées de certains.
Moi, j'ai vu par exemple des Final Fantasy VII à 100 euros. Alors que je me souviens je l'avais acheté à l'époque, je l'avais revendu puis réacheté en platinium, donc il y a genre 20 à 25 euros, là il est à 100 euros. Quoi. Et certaines personnes le vendent à 30-50, mais il y en a, ils disent c'est rare, donc du coup ils vont vraiment pas avoir de remords, et ils vont le vendre tout de suite à un prix vraiment démesuré. Quoi. Voilà, moi j'ai fini avec ce dossier, j'ai essayé de faire assez bref et concis, mais... C'est peut-être resté trop long. En même temps, ça
concerne... C'est jamais trop long pour en parler.
Et là, je n'ai pas parlé de console en général. Je voulais vraiment rester sur rétro gaming. Voilà.
Moi, je vais vous parler d'une console qui est sortie... qui va sortir, puisqu'on a eu des images de la manette. Amazon va nous sortir une console qui permettra de jouer notamment aux jeux qui tournent sous Android. Pour l'instant, ce n'était que des rumeurs, mais apparemment, dernièrement, on a eu des images de la manette... Donc, ce qui prouve qu'il y a vraiment du travail qui est fait là-dessus.
C'est pas récent, il y a déjà des...
Moi, j'ai vu la manette. Comme ça.
Alors, je sais qu'il y a, des manettes qu'on peut brancher à son portable. Là, on aura complètement une console qui intégrera des jeux Android sur lesquels on pourra jouer.
Donc, tu pourras pas utiliser la manette avec ton téléphone. T'es obligé de prendre une console
Alors, pour le peu d'infos qu'on a actuellement, je pense que ça sera une manette Bluetooth. Donc il y a de fortes chances qu'elle fonctionne avec ton téléphone. Bon, après, si on te fournit une console, c'est justement pour jouer avec une télé, je suppose, aux jeux Android qu'on trouve actuellement sur le marché.
Bah après, avec les dernières télés, on peut directement envoyer la télé directement, enfin envoyer l'image directement sur l'écran.
Les Google TV.
Voilà.
Moi j'ai vu la manette, j'ai vu un bouton genre play, un bouton reward, forward, je me suis dit on est plus sur un truc multimédia qu'une vraie console quoi. Parce que voir ça sur une manette, un bouton lecture sur une manette, c'est vraiment déroutant.
On va avoir des boutons chers
quoi.
Sur la manette, c'est n'importe quoi.
Ouais, un bouton like.
Un bouton lecture, c'est le bouton start de la PlayStation. Hein.
La forme. Mais il n'y a pas reward et forward.
Donc Amazon pourrait aussi donc permettre de jouer plus aisément sur Kindle Fire. Et le lancement est prévu apparemment courant 2014. Et aux dernières nouvelles, cela sera vendu à pas moins de 300$. Ce qui fera quand même une petite somme. Hein.
Un bon flop, je pense.
Alors, c'est vrai que maintenant, ils font des clés qui permettent de brancher votre téléphone au niveau de la téloche. Donc, c'est des...
Les téléphones qui arrivent maintenant sont tellement puissants au niveau de la 3D compagnie.
Moi, j'avais envie de faire une petite pause musicale, là. Ça me plaisait bien. Alors, Dominique m'a contacté cette semaine.
Quoi ?
En me disant, tu ne devineras jamais ce que je viens d'entendre.
D'entendre, hein. Je n'ai pas écouté, je l'ai entendu. Tant pis, je
vais à son insu.
Enfin, voilà. À l'insu de mon plein gré.
Donc tu m'as parlé de... Rappelle-moi. Proposé deux choix. Donc le premier,
on va garder pour plus tard.
Voilà. Mais ce qui a retenu mon attention, c'était notre ami Rock Voisine.
Ah là là. Le grand chanteur international.
Oui, Alain, tu as beau faire un facepalm. Rock Voisine continue encore à chanter.
Et comme je sais que tu es fan des Red Hot Chili Peppers...
Forcément, la news a atterri dans mon téléphone, comme ça.
Quel rapport ?
Donc, Rock Voisine chante les Red Hot Chili Peppers.
Lol.
Alors, je vois qu'il est marqué Santana, alors me demandez pas pourquoi. Mais à la guitare, il y aurait peut-être du Santana ?
Non.
Le fils de Santana ?
Non. Ça, c'est du Santana.
C'est authentique.
vous laisse deviner la petite de vrai. La chanson.
C'est aussi chante le vrai.
On reconnaît bien Rogoyer, son timbre.
Ce qui est atroce, c'est les guitares.
C'est atroce. C'est Laurent Gérard, c'est une blague. J'ai pas dit quand.
L'instrumental, c'est pas
ça. Mais je pense qu'il a perdu un pari. C'est tout. Le mec, une soirée, était bourré. Vas-y, tu peux reprendre du Nine Inch Nails. Ok, d'accord, je vais reprendre ça. Allez, vas-y. Fais une gratte à la Santana. Pourquoi ? Bah parce que c'est Camoulox, c'est comme ça, on joue comme ça.
Mais je pense qu'il y a quelqu'un. Il y a marqué Santana, donc c'est que.
Ouais, mais il y a aucune logique à la guitare.
Arriver à
c'est très beau,
tu prends tout ce que tu te permets quand t'es un vrai artiste.
Il ne faut pas se faire grand chose là.
Je crois que ça va atterrir dans mon lecteur MP3, ça. Hein.
C'est très très bon.
David se bouche les oreilles.
Ah, je fais la technique.
Je joue au petit coup.
Alain essaie de se... Alain essaie de partir par la fenêtre. Oh, il a quitté le navire, là.
C'est pas mal, quand même.
Son charme. Par contre, j'arrive pas à entendre ma basse. Par contre, c'est pas la même chose. Je crois qu'il n'y en a pas.
Bah, il avait prévu la guitare.
Non, mais genre, en même temps, c'est le son. Mais c'est
pas vrai que tu feras le morceau au
casque. Voilà, je vais au casque.
Au casque.
En boucle.
C'est plus lent, c'est mort.
C'est plus lent.
On dirait une version reggae. C'est pas mal.
Du coup, ça dure 5 minutes.
Les artistes, ils savent plus quoi faire. En fait, ils ont plus envie de sortir de nouveaux albums.
Ça, il y a une erreur en fait. Il était dans un studio, il a entendu un mec qui jouait de la guitare. Ils ont enregistré en même temps, tu sais. Ça avait rien à voir. Ça ressemble pas du tout, ça va pas. C'est pas grave. On n'a pas d'argent, on n'a pas le temps. Mets-le sur la même piste.
C'est enregistré dans sa voiture. Il écoutait les redotes.
Dans sa douche.
On entend le bruit de la douche d'ailleurs.
Ça fait merde. Pourquoi Santana ? C'est le fils d'Antana ?
Ouais, je crois qu'il est marqué Santana, mais il y a du Santana. Ouais. Pourquoi il a un fils Santana qui...
Bah alors c'est la musique aussi, peut-être.
C'est peut-être le petit-fils de 5 ans, quelque chose comme ça.
Je sais pas.
Mais c'est pas le chant qui est merdique, qui le copie exactement. C'est tout le reste.
Avec sa propre voix.
Ouais, c'est pas terrible, mais je veux dire, c'est pas le pire, c'est pas le plus gênant. C'est pas le plus grosse fête de gueule.
Et non, c'est pas fini.
Oula.
Oh.
Eh, ça continue. Hein.
Oui, il joue parce que
c'est Carlos Santana.
Oui, le vrai.
Bah,
c'est
oui.
Qui joue avec Rogozin.
Ah merde. Wow. En même temps, Santana. Ouais.
Respect.
Non, c'est.
Wow.
Musicalement,
c'est. Il a pas repris la musique, c'est vraiment Carlos Santana qui joue avec.
Peut-être.
Il est au bout du rouleau, oui.
À creuser.
Bah, il a toujours été au bout du rouleau.
Ou c'est.
C'est
tout simplement Rogozin qui monte.
C'est un branleur de manche. Ouais.
Branleur de manche.
Bah c'est vrai, regarde ce qu'il fait, s'il avait une once de goût, il ferait pas un truc comme ça. Ça n'a rien à voir la guitare avec le reste de la musique. Et c'est super laid. Le mec, on peut être très très bon techniquement et être à la ramasse au niveau des goûts musicaux. Des goûts musicaux.
Mais là, même les Red Hot, quoi, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'attaquent en justice bientôt. Non?
Ça dépend combien de pognon tu files, hein.
Voilà, on va voir combien de droits ils vont toucher.
Il est riche, Rogozin.
Donc, nous allions parler d'un autre sujet qui concerne Adopi, puisque vous n'êtes peut-être pas sans savoir que Adopi a un nouveau moteur de recherche. C'est un peu surprenant, donc ils ont lancé ça, c'est un peu une expérimentation aux dernières nouvelles, et ça permet de rechercher des œuvres. à savoir si elles sont disponibles, comment.
Comment les acheter, comment les acquérir légalement.
On peut faire des demandes aussi à Dopi, voir s'il y a des œuvres qu'on trouve pas sur Internet légalement, on peut leur faire une demande et eux, apparemment, se démerderaient. Enfin, je sais pas trop, j'ai pas poussé.
L'album de Mr. T, par exemple, est-ce qu'on peut le trouver légalement. Non, mais je ne sais pas.
Problème, c'est super délicat parce qu'il faut vraiment être sûr de ne pas pouvoir le trouver. C'est super délicat.
J'ai pas envie de voir Mr. T.
On peut pas savoir si c'est vraiment introuvable. Non, mais
moi, j'imagine pas les demandes qu'ils vont recevoir, des mecs tarés qui vont envoyer. Mais je trouve pas ce film porno ou quoi. Ça va être une anarchie.
Il y a peut-être des petits malins qui vont s'amuser.
Je trouve pas le dernier album de Johnny Hallyday. Il est plus à la Fnac, quoi, tu vois. Alors que, voilà, on va avoir de tout, quoi.
Mais il était livré avec une bouteille, le dernier album de Johnny, hein.
Comme tous les albums, c'est le seul moyen d'écouter.
Alors Adopi, effectivement, ne compte pas répondre à toutes les demandes. Mais bon, ils ont quand même déjà référencé plus d'une centaine de sites Lego, et non sans polémique.
Lego, LEGO.
Voilà,
j'ai posé la question.
Et donc, apparemment, ils ont dans leur site Lego, il y a...
Ça me perturbe.
Adopi soutient les Lego, et les Playmobil.
Playmobil aussi.
Donc des sites comme des sites de photos par exemple qui proposent des photos libres de droit, et cela ça a un peu fait polémique par rapport à certains éditeurs, puisque pour eux ça contribue à l'effondrement généralisé à la valeur de l'image. Pour résumer concrètement, l'idée d'Adopi, c'est la possibilité de rechercher un film, une musique, et de l'obtenir légalement en étant redirigé vers un site légal.
Mmh. C'est pour contrer l'argument, je ne le trouve pas à acheter ou autre, je le trouve plus facilement sur un site torrent ou autre. On n'aura plus cet argument-là, on n'est pas censé l'avoir, mais après,
quand un jeu est en rupture de stock, on peut envoyer un mail à Adopi pour qu'il nous trouve...
Il y a beaucoup de cas comme ça, quoi. Ou l'album de Mr. T.
Pour ceux qui auront l'occasion de tester ce...
Il y aura peut-être des soucis, parce que si tous les sites ne sont pas référencés, ou alors est-ce que certains sites vont être mis en avant ? Si tu lances une recherche sur un site, et que, comme par hasard, c'est toujours la Fnac qui arrive en premier pour l'acheter légalement, est-ce que derrière, c'est pas comme Google ? On sait que sur Google, on peut payer Google pour que votre nom, le nom de ton site, apparaisse en premier dans les recherches.
On paye Adopi, non ?
Donc est-ce que Adopi ça sera pareil, est-ce que ça sera vraiment... Comment seront déterminés les sites sur lesquels tu pourras les changer, dans quel ordre?
Dès le départ, c'est une loi qui tient pas la route dès le départ. Il y a plein d'artistes qui ne la soutiennent pas, ça a aucun sens. Il y a des gens qui ont pour principe que l'art, ça devrait être gratuit déjà, premièrement.
L'idée est sans doute louable au départ, mais techniquement, elle est dépassée, quoi.
Voilà, et de toute façon, avec Internet et tout, ça permet de découvrir les artistes. Les artistes, ils gagnent de l'argent avec les concerts, déjà, premièrement. Ils gagnent plus de l'argent avec les albums. Moi, j'ai, par exemple, dans le milieu indépendant, moi, il y a des trucs qui me font mourir de rire. Il y a des gens, on lui a demandé, j'ai vu une interview, alors je sais plus quel groupe, mais c'est pas l'intérêt. On lui a demandé, est-ce que vous avez déjà téléchargé des albums illégalement? Il fait ouais, on a téléchargé dernièrement notre album pour voir si en 320, en bitrate 320, il était de bonne qualité. Pour savoir si les gens qui allaient télécharger illégalement, ils allaient avoir la bonne qualité de leur album, tu vois. Et ça, je suis désolé, mais c'est sûr que c'est pas dans la variété, dans ce truc-là. Les vrais artistes, ils s'en foutent qu'on télécharge leur album. Tant que la musique est faite pour être partagée, et elle est pas faite pour vendre. Donc, c'est fait pour les gens, en vivre un minimum. Mais les vrais artistes, ils sont sur scène et ils défendent leur album sur scène. Ils sont pas là avec de l'autotune derrière et voilà.
C'est partir du principe qu'ils seront récompensés si on aime bien, et donc on participera à acheter un CD.
Il y a des groupes américains, je pense à un groupe comme Enablers par exemple, qui est super intéressant parce que les mecs ils font de la musique depuis 10-15 ans avec, mais vraiment des très très bons musiciens. Et les mecs ils vivent à peine de leur musique, ils ont peut-être 1 000 € par mois, alors qu'ils sont connus, ils ont sorti des albums et ils sont super heureux parce qu'ils vivent de leur musique, quoi. Ils gagnent pas une fortune, mais ils arrivent à en vivre. Ils ont pas besoin de faire autre chose à côté. Et voilà, ça c'est un bon message, et je pense pas qu'Adopi ça serve à grand chose, quoi.
C'est un petit peu dépassé, ça.
Ils sont pris apparemment plusieurs tôles. Ça fait combien de temps que ça s'est lancé? Ça a plus de 2-3 ans, je pense.
Techniquement, c'est dépassé, c'est très facile à contrer, à part pour les gens qui ne connaissent rien. Mais bon, les gens qui n'y connaissent rien en informatique, de toute façon, vont sans doute pas aller télécharger des albums, vont plutôt les acheter.
Qu'est-ce qu'on risque vraiment, surtout.
Et puis, si t'as un mail, de toute façon, t'as toujours un moyen de contrer. T'as des VPN, t'as plein de choses comme
mais
ça.
Mais pour l'instant, Adopi surveille que le peer-to-peer aux dernières nouvelles. Pas le direct download.
Voilà, c'est ça. Le direct download, tu peux télécharger tout ce que tu veux.
Donc direct download, c'est quoi? On va sur le site, on clique sur le bouton télécharger, ça nous connecte à un serveur, on télécharge en direct.
Le bon bouton.
Ils n'ont pas vraiment de possibilité de savoir ce que tu as téléchargé finalement, c'est difficile de...
Alors que peer-to-peer, l'ancêtre...
Bah ils ont peut-être pas les moyens en tout cas.
L'ancêtre du peer-to-peer, c'est peut-être Emule.
Emule, ouais. La grosse connerie, bah, faut pas rester dessus quoi.
Emule, c'était très dangereux, ouais.
C'était le premier, ouais, les jeunes métiers à l'époque.
Et ensuite, donc il y a eu les torrents, et je pense que c'est surtout sur les torrents que ça surveille.
Il y a des torrents pièges, je pense. Aux États-Unis, il y avait des faux torrents où... c'était juste pour capter justement.
Et quand tu ouvres le fichier, ça te fait, vous avez bien été eu.
Mais il faut savoir, c'est que si tu reçois si Adopi t'a capté, ils surveillent ta ligne pendant 2 semaines en fait. Mais tu ne seras pas prévenu tout de suite, tu vois, tu auras le mail un mois après. Donc c'est bon. Donc c'est un petit peu débile parce que finalement, est-ce qu'ils ont vraiment le droit de faire ça? Je ne sais pas comment ça marche légalement.
C'est quoi surveiller ta ligne?
C'est-à-dire que tu as eu un téléchargement illégal, ils t'ont vu faire un téléchargement illégal pendant 2 semaines, ils vont faire attention à ta ligne.
Ils vont regarder tout ce qui...
Pourquoi faire ça? Parce que finalement, t'as pas été informé du fait que t'aies été pris. Donc c'est assez étrange comme loi. Il y a beaucoup de ministres qui la soutenaient pas. Et moi, je trouve ça.
Il y en a beaucoup surtout qui comprenaient pas.
Voilà. Et puis surtout que peut-être leurs enfants
étaient téléchargés aussi.
Voilà, c'est ça.
Aux dernières nouvelles, Adopi sera en fin de vie. Hein. Je pense qu'à terme, ça n'existera plus. On partira sur une autre solution.
Ça n'existe déjà plus, hein, plus ou moins.
Ouais, que ça devienne, c'est peut-être en train de devenir.
Ils se reconvertissent, je pense.
Plutôt qu'un organisme de répression ou de prévention, peut-être un organisme d'information pour dire aux gens si on peut acheter de la musique légalement et pas forcément très cher, etc. Ouais. Donc vous n'avez pas d'excuses si vous piratez.
Ils veulent limiter la casse, je pense. Ils peuvent pas l'empêcher.
D'ailleurs, vu que tu parlais de musique, on voit maintenant que les ventes d'albums sont en baisse, mais que l'achat au niveau des sites de streaming, lui, est en hausse. Donc Spotify, Deezer, etc. Donc les gens achètent moins d'albums.
Il y a plein de modèles économiques pour écouter de la musique.
Le problème, c'est que les artistes, eux, touchent pas énormément par rapport à un Deezer ou à un...
Moi, je suis abonné à un service, il y a un éditeur anglais qui j'achète de la musique régulièrement. Et je suis abonné à un autre service qui marche, fonctionne avec plein d'auditeurs, qui s'appelle Drip.fm. Tu payes, je ne sais pas combien, peut-être 10 euros par mois. Mais dès que tel éditeur sort un album, tu l'as en priorité, en téléchargement, pour toi, quoi, et dans la qualité que tu veux. Donc,
Après, c'est compliqué. Hein. Est-ce que tu es sur un label? Est-ce que tu es autoproduit? Est-ce que tu as un label indépendant? Il y a plein de choses. Si c'est une majeure, tu touches, je crois, 1 ou 2 euros par album. Donc, de toute façon, c'est pas ça qui va faire... C'est pas les artistes qui sont touchés, c'est les compagnies. Ouais. Et ça, on le cache parce que c'est facile. Les compagnies, les gens sont pas touchés par les compagnies. Ils vont dire, oh, on s'en fout, la compagnie est riche, ça ne nous concerne pas. Mais c'est justement en disant, l'artiste, du coup, ça va être plus difficile pour lui, c'est comme ça qu'on arrive à toucher les gens. Mais c'est pas vrai, c'est pas l'artiste qui est blasé de ça, quoi.
Moi, ce qui m'a toujours fait halluciner, c'est par exemple, ils vont sortir une compile des Beatles, ou d'autres qui sont tous morts, tu sors un groupe où ils sont tous crevés, ils vont te vendre ça une fortune pour le best-of, alors que derrière, les droits, eux, ils vont en prendre une grosse partie dans leur poche, quoi. Et ça m'a toujours fait halluciner.
C'est pas le patron d'Universal qui, à chaque fois qu'un artiste mourait, mettait sur Twitter « on est triste qu'il est mort, retrouver son intégralité, ses albums sur Universal ».
Il l'a fait une fois et ça lui est retombé dessus.
Ouais, il l'a fait plusieurs fois.
C'était une grosse merde.
Comme Michael Jackson, hein, il n'a pas vendu autant d'albums depuis, 5 ou 6 ans, alors que quand il est mort, ça y est.
Là, ouais, c'est un phénomène normal, on va dire. Les gens, la personne n'est plus là, ils se rendent compte qu'elle n'est plus là à ce moment-là et on achète les albums. C'est assez cool.
On sera plus là, on écoutera peut-être le podcast.
Bon, on va devoir sacrifier quelqu'un aujourd'hui.
Alain
tu viens d'arriver.
Tu repars tout de suite.
C'est bon.
Enfin, moi, j'ai toujours été un partisan du « j'aime bien, j'achète ».
Voilà.
Le problème, c'est que pour dire « j'aime bien », généralement,
il faut tester.
Ça marche pour les jeux, ça marche pour les musiques.
Non, c'est sûr que le monde de la musique, le marché de la musique est en train d'évoluer depuis des années avec des nouveaux modèles qui apparaissent presque chaque jour. Et
bah, tu peux encore stable. Tu ne peux pas étendre cette pensée-là non plus à tout. Je veux dire, un film, tu le regardes une fois, je vais attendre plusieurs années avant de le regarder. Donc ça ne sert à rien de l'acheter dans le moment, donc c'est compliqué aussi. Quoi.
En plus, il y a plusieurs versions qui sortent. On l'a vu avec Le Seigneur des Anneaux, les Star Wars.
Il vaut mieux pas acheter la première édition.
Tu achètes la première édition, 2 ans après, tu as une édition avancée avec des bonus en plus. Puis après, tu as le Blu-ray qui sort, donc tu as une nouvelle édition avec des nouveaux... où c'est encore plus joli. Oh là là, ça devient compliqué.
Je sais pas combien d'éditions de Star Wars il y a eu, mais...
Non, mais Star Wars, je me rappelle, c'était il y avait l'édition cassette, la toute première, machin. Après, ils ont sorti une version où il y avait le son qui était amélioré. Je sais pas, c'était pas la version THX ou quoi, mais bon, cassette, voilà, on sentait pas trop la différence. Non, ça c'était la deuxième. Juste avant, ils avaient sorti une version avec l'image un petit peu améliorée.
Oh.
Après, ils ont sorti la version avec l'image améliorée de THX. Après, ils ont sorti l'édition spéciale avec les scènes en plus. Après, ils sont passés au DVD, tac tac tac. Maintenant, ils font avec le
Blu-ray. Puis on est en 3D. Et puis, voilà,
en parlant de Star Wars, il y a un nouveau Star Wars en préparation.
De Disney, c'est ça?
Disney.
C'est pas Disney qui produit Star Wars.
Si, si, maintenant c'est Disney qui possède Star Wars.
Comment ça le tourne au mois de mai en Angleterre. Mmh.
Donc apparemment l'histoire c'est Mickey qui pilote. Bon. Alors autre petite actu, avant le jeu SimCity, donc c'est un jeu qui est quand même sorti l'année dernière.
Mmh.
Mais apparemment donc lorsqu'on voulait y jouer, on devait passer par internet.
Ouais. En fait, ouais, il fallait avoir une connexion internet permanente pour être connecté.
Donc,
si on jouait en, puisque il y avait une partie du jeu en ligne, les anciens SimCity, on jouait un petit peu solo dans son coin, détendait sa ville. Avec le SimCity, alors je sais pas quelle version c'est, ça s'appelle SimCity Online éventuellement. Tu pouvais jouer, te connecter avec des amis, partager, être voisin de leur ville, etc., partager, échanger des
t'allais foutre tes poubelles chez eux et hop.
Bah, par exemple, pourquoi pas, tu pouvais très bien faire une ville remplie d'habitants qui allaient travailler dans les villes. Voilà. Et le souci, c'est qu'il y avait, en plus des bugs, mais bon, comme tous les jeux vidéo, on était obligé de rester connecté en ligne en permanence.
Donc le problème, c'est que ben, si les serveurs sont offline et vous voulez jouer à votre jeu tranquille, ben, ça, c'est pas possible.
Il y avait beaucoup de bugs de lancement.
Si vous n'avez pas internet, ben, c'est mort. Si vous avez une connexion de merde, c'est pareil. Ouais. Mmh.
Mais donc, ils doivent perdre du monde. T'as envie de boycotter un service comme ça, parce que c'est, tu sens. C'est
je veux dire, moi, j'avais envie de l'avoir quand j'ai su qu'il était en ligne. Je voulais pas, parce que si je veux jouer dans le train ou que je veux jouer quand je suis pas chez moi, c'est le gros souci. Je crois que ça m'énerve.
Il y avait la même chose avec la Xbox 360. Je sais pas si ça a été, j'ai pas trop suivi, ça a été finalisé, mais au départ, ils voulaient faire ça. Ils voulaient faire si
tu la Xbox One.
Ouais, la Xbox One, ouais. Pardon.
Le fait d'être connecté en permanence, voilà.
Oui, c'est pourquoi pas.
Le fait est que pour eux, ça leur fait un deuxième coup de pub, hein, puisque moi, le premier SimCity, je suis passé carrément à côté, j'avais même pas grillé l'actu. Que maintenant qu'ils passent offline, etc., ça leur fait un deuxième coup de pub. On dirait que le jeu ressort, quoi.
Parce que c'est l'actu du jour, donc tu ne l'as pas appelé. On peut jouer à SimCity en étant hors ligne.
Donc apparemment, il n'y a pas que ça comme nouveauté, c'est qu'ils ont également autorisé les modes. Et des modes gratuits, ce qui est aussi important à dire. Est-ce que c'est pour tout éditeur ou un amateur pour proposer son mode?
Je pense que un amateur peut le faire, mais en fait, faut pas que ça afflue sur le classement. Si ça donne des bonus pour avoir une ville super développée ça et qu'au niveau le classement en ligne, tu peux être premier avec ton mode, ça va pas aller.
Un mode, c'est l'abrégé de modification, c'est-à-dire que tu peux créer toi-même tes bâtiments, ça peut être un aspect purement visuel.
Pour moi, ça fonctionnera que justement offline. C'est pour ça peut-être qu'ils lancent ça avec le.
Ça peut être
offline.
Purement cosmétique. Voilà. Un monument qui existe, un monument créé par les éditeurs du jeu dans le jeu, je sais pas, un monument quelconque, tu peux dire, moi j'ai envie que ça ressemble à la Tour Eiffel. Sur ton ordinateur, ça ressemblera à la Tour Eiffel ou à ce que tu veux. Et pour les autres joueurs, continuera à voir. Tant que ça n'apporte pas de modification, un bâtiment qui rapporterait de l'argent à ta ville, tu pourrais très bien tricher en créant un monument qui dit, c'est simple, chaque jour il va rapporter $1 milliard à ma ville. Automatiquement, d'autres joueurs diraient faut peut-être te calmer avec ton monument un peu.
D'ailleurs, en passant, le mode offline ça ajoute des cheat codes.
Sur cette note, on va faire une petite pause et se retrouver juste après. Vous êtes toujours sur la Nether Podcast et nous sommes sur la radio Bellafonte. Nous étions en train de parler de SimCity et de ses add-ons qui seront désormais disponibles en téléchargement, je pense, sur leur site. On s'en fout, me dit Alain.
Il va sûrement y avoir, comme pour tous les jeux, des sites de fans.
Moi, je pense que je le testerai, du coup, puisque j'ai regardé un peu le mode de gestion. Ça a l'air aussi poussé qu'un Banished.
Alors, le dernier en date des SimCity, ça devait être le 4.
Le 4.
Et quand tu regardais le 4, qui avait déjà eu des patchs, des add-ons, etc., on était pratiquement au niveau du dernier SimCity, quoi.
Il y a pas mal de choses qui changent, ne serait-ce
même
que
même si daté de plusieurs années, quoi. Oui, graphiquement. C'est une version graphiquement améliorée, un peu comme Diablo 3. Diablo 3 est une version améliorée graphiquement, mais d'un Diablo 2 ennemi, quoi. C'est tout.
Ils ont rajouté des packs de textures.
Ouais, en même temps, c'est pas dire, moi je suis resté à SimCity 2.
C'était très bien. Le 3 était bien. Le 4 était. À chaque fois, c'est toujours le même jeu avec des interfaces, des options en plus, mais graphiquement, voilà, tu peux afficher parce que la taille des écrans augmente, donc forcément. Mais là, la version SimCity Online, c'est vraiment, vraiment une version graphique améliorée du 4, quoi, du 4 extension, mais il n'y a pas de révolution énorme. Mais
il régresse un peu aussi dans un sens où, quand tu veux créer une ville, t'es limité dans l'espace et tu peux pas l'agrandir. Et ça, c'était une demande des joueurs. Ils ont dit catégoriquement, on fera jamais ça, on n'agrandira pas les villes.
Parce que c'est une question de le fait que ça soit en réseau en ligne. Oui, il y a des limites et des contraintes techniques, forcément.
Voilà, c'est comme on disait, les add-ons, s'il y a un add-on, et à mon avis, il doit en avoir des gens qui ont développé des choses pour qu'on puisse agrandir la ville, le terrain du moins qu'on peut utiliser.
Ça sera forcément...
ce sera pas autorisé.
Une version solo, on va dire.
Mais j'ai entendu que c'était vraiment petit. Est-ce que c'est vraiment si petit que ça?
J'ai essayé, mais c'est pas...
Bah, c'est limité. Le fait déjà que c'est forcément plus petit, puisque les villes avant dans les anciens SimCity avaient une taille pratiquement infinie, puisque tu étais dans des temps que tu voulais.
Dépend parce que quand tu commences, tu dis putain, c'est grand et tout, mais forcément au fur et à mesure tu te développes.
Dès que tu as construit une autoroute, c'est que
tu te développes en hauteur.
Voilà, mais dès que tu as
fini. C'est vrai que la dimension, le fait que ton autoroute soit reliée à la ville d'un autre joueur, ça donne une notion intéressante.
Moi, ce qui m'énerve, en fait, c'est
Le fait d'être en taille, ça te donne aussi peut-être plus d'imagination et d'une façon de construire différemment, donc ça peut être un avantage.
Ouais. Le problème, c'est que t'es obligé d'aller sur une autre map pour te développer, et des fois, t'es obligé de sortir ta map, tu vas dans le menu et tout, et ça fait pas une continuité dans le jeu. Et c'est ça qui me dérange.
Ça change un petit peu, mais c'est vrai.
On va vraiment passer très vite sur la prochaine news. On a eu quelques news par rapport à Elder Scrolls Online. Alors je sais qu'on en parle à chaque émission, un peu comme Hearthstone.
On n'a pas encore de plainte des auditeurs, non, qui en ont marre de...
Non.
La sortie approche.
Non, on me demande plus d'albums découvertes, cependant.
Ah, très bien, tant mieux.
C'est un paradoxe. Alors, il y a eu un billet qui était posé au niveau de Bethesda Studio, à savoir que Elder Scrolls Online, il y a eu récemment donc le décompte de nombre de joueurs inscrits à la bêta, donc il s'élève à plus de 5 millions de joueurs. Et bon, après, les inscriptions et le nombre de joueurs qui y jouent, ça peut être différent, sachant que certaines personnes s'inscrivent plusieurs fois. Bon, on peut penser qu'il y a...
Au début, vu que c'était une bêta fermée, les gens, ils s'inscrivaient 40 000 fois pour avoir une clé, c'est tout.
Bon, on peut être quasiment sûr qu'il y aurait plus d'un million de personnes qui auraient pu tester cette bêta actuellement. Donc, les derniers tests avaient pour but de surcharger les serveurs.
Et de tester l'infrastructure des serveurs pour la sortie.
Donc ils avaient tout regroupé sur le serveur américain. Je pense que quand nous on avait testé, c'était le cas. Et bon, on a eu des lags, on a eu des impossibilités de se connecter. Mais ce qui est marrant dans la news que publie Elder Scrolls Online, c'est qu'il nous affirme que le lancement d'Elder Scrolls Online se fera sans accroc. À savoir que tout se passera bien.
Normal.
De la part de Bethesda, c'est risqué.
Non.
Ils affirment que l'infrastructure est prête et en cas de plus grosse influence, ils ont déjà des serveurs
de débordement.
Donc il y aura des fonctionnalités en moins telles que le PVP, etc.
C'est quelque chose qui est assez en tirant l'expérience de tous les jeux qui sont sortis récemment. C'est quelque chose qui ne devrait pas poser de problème, quoi.
Est-ce que tu as déjà vu un lancement de jeu qui s'est passé sans accroc comme ça?
Disons que j'ai vu des lancements de jeux qui démarrent très mal, mais où les éditeurs arrivent à s'adapter très très vite dans les minutes, à réagir, à ouvrir des nouveaux serveurs, donc maintenant ça je pense qu'il y aura
pas trop de soucis. Parce que Guild Wars 2, ça avait bien fonctionné au démarrage.
Je pense qu'il n'y avait pas trop de soucis.
À mon avis, c'était...
C'était un samedi à
5h. World of Warcraft, c'était un carnage.
World of Warcraft non plus. Je me rappelle pas avoir eu de problème vraiment.
Tu rigoles, il y avait des
le jour même,
tu devais attendre 3 jours pour
que c'était le vieux serment qui était absolument terrible. Guild Wars 2, il n'y avait pas de soucis parce que ça reprend un peu le même principe des serveurs débordement. Voilà, donc tu arrives à te connecter. Quand un serveur était plein, il y a un nouveau serveur virtuel qui apparaissait, les joueurs pouvaient se connecter. Alors, un jeu qui a eu pas mal de soucis, bon, Diablo 3 a eu pas mal de soucis parce que Blizzard avait mal anticipé. Ils avaient imaginez des serveurs, on va dire des PC en réserve à allumer au cas où il n'y avait pas assez de monde, mais même ces PC-là n'ont pas suffi, ou je ne sais quoi, donc les serveurs. Donc il y a eu des gros soucis de démarrage.
Pourtant, voilà, il y avait une grosse attente sur Diablo 3.
Exactement.
Après, c'est vrai qu'ils auraient dû se douter que ça servait à rien d'en mettre plein dès le début, parce que 3 mois après, il n'y aurait plus personne. Enfin...
Je ne comprends pas que les éditeurs ne font pas des étalements de lancement, pas presque fuseau horaire par fuseau horaire, parce que dire à tous les gens, là, je ne sais pas, mais combien, 5 millions, mettons que 1 million de personnes, de joueurs vont essayer de se connecter, ils savent qu'à ils ont annoncé le lancement, ça doit être un lancement anticipé le dimanche vers 13h. Ils savent qu'à 13h à peu près, il y aura peut-être 1 million de personnes dans le monde qui vont essayer de se connecter en même temps au jeu.
Mais ah, mais il y en a pour qui ça sera la nuit. Hein.
Pour réseau, ils ont déjà annoncé les heures. Je sais que l'accès anticipé de 5 jours, qui est le 30 mars,
c'est ça.
Les serveurs seront ouverts à 1h de l'après-midi.
C'est ça.
Donc à mon avis ils vont bien gérer
pour
le truc.
Pour la France.
S'ils ont deux serveurs pour Amérique et pour Europe, apparemment ils en vendent pas mal les capacités. J'ose espérer que ça va bien se passer. Quoi.
Non mais le principe des serveurs de débordement, c'est bien derrière, il suffit d'avoir être prêt à louer de la main d'œuvre pour être capable de réagir à la minute près et pour donner des capacités en plus pour aux joueurs de se connecter. Mais je pense que j'étais vraiment surpris pendant les bêtas de la stabilité des serveurs. Quelques soucis par moment.
Au début, ça merdait, mais
c'était réglé assez vite. Tu te relançais et après, tu n'avais aucun souci, quelle que soit la quantité de joueurs qui étaient présents.
Bah, c'est de la bêta, donc même s'il y a des bugs, tu peux pas dire, tu peux pas te plaindre, quoi.
Non.
Mais par contre, le jour de l'annoncement, surtout que
les joueurs
mettent une annonce.
Les acheteurs commencent à avoir de l'expérience, ils savent très bien que. Il y a régulièrement des soucis au lancement des jeux. Donc
on se moque pas mal que ça va. Ils vont pas avoir d'accro ou de lag ou quoi parce qu'il n'y aura personne sur le serveur.
c'est ce que tu disais, c'est que dans les dernières news, il y avait peu de gens.
Voilà, il y a beaucoup de gens qui lynchent le jeu en se disant voilà, c'est pas le successeur de WoW. Je pense que c'est ça qui énerve, c'est que les gens ils se disent on peut pas détrôner WoW, c'est interdit.
Oh là là. Ne lançons pas de débat maintenant.
WoW, c'est quoi déjà?
Je sais pas.
Ne lançons pas de débat.
Très bien. Moi, je pense qu'il est temps de faire une pause pub pour lancer le blind test. Aujourd'hui, c'est Dom qui se colle au blind test. La clé est prête.
J'ai peur.
Je pense qu'on peut s'en aller, il y aura autant de personnes qui vont trouver, je pense.
Ça dépend. Il y a du facile, il y a du très difficile. Il y a du impossible et du évident. Je vais commencer par une intro. C'est pas un morceau de musique, c'est pas un jeu vidéo. Mais ça a un rapport avec quelque chose dont on discutait il y a quelques minutes.
Profession critique. C'était pas ça?
Non. C'est les Simpsons?
Ouais,
c'est les Simpsons?
Yes. C'est une pub, ils ont fait une pub.
Pas exactement.
Ah non, mais je sais.
Ils ont fait.
C'est l'avant-dernier épisode des Simpsons, donc en version originale.
Ah oui, mais j'ai pas.
Même si on entend Marge qui parle en français. C'est parce que c'est la petite séquence du canapé, le couch gag. Au début de chaque épisode de Simpsons, il y a un épisode, il y a une petite séquence avec le canapé où ils se rassemblent tous. Et là, c'était réalisé par Sylvain Chaumet, le réalisateur français qui a fait, entre autres, les triplés de Belleville. Donc, les Simpsons, c'est une parodie d'une famille française, avec Homer Simpson qui mange des escargots. Voilà, vous cherchez sur YouTube Simpson Chaumet, et vous allez voir.
Moscou.
Avec avec Maggie qui joue d'un accordéon, forcément.
Pas les références françaises authentiques.
Exactement, et c'est réalisé par un Français qui se moque. Les Français même.
Bah, carrément. Voilà.
Hein. Et c'est vraiment excellent de
parler. Un commère qui gobe son escargot cru, voilà. Là, ketchup.
Et c'est énorme. Alors, on va passer. Alors, ça, c'était la petite séquence d'intro.
Extrait suivant.
Exactement. Complètement différent. Une musique de jeu vidéo.
C'est pas du Quake ça?
Non. Ça pourrait être
en pas. C'est un Quake. FPS pour sûr.
Même pas. Quoique. Non. On tue des gens mais pas avec des flingues.
Ouais, c'est plus du service Sam que du genre.
Bah alors c'est un FPS ça aussi.
Faut tuer des gens. Mais c'est pas avec une pas avec des armes.
C'est pas God Simulator.
On n'est pas au volant d'une chèvre. Ah, je donne un avis.
Ah, on est au volant de
Carmageddon.
Carmageddon.
Oh, oui.
Ah, je ne connais pas.
Qu'est-ce que j'y ai joué?
Ah, là.
J'aurais pas reconnu la musique.
Moi non plus. On va rester un peu dans le lourd.
Ça me
effectivement, la dernière fois dans un précédent, on avait passé du Quake avec Nothing Small. Autre groupe connu qui a fait une musique de jeu vidéo. Faut que je la retrouve. C'est ça.
Tu bloques IP?
Cypress Hill. Si on fait la BO intégrale d'un jeu, un FPS.
Il faut trouver le mot.
Pour retrouver qui?
Portal.
Non.
Même époque que Quake, dans le moteur graphique.
Wolfenstein.
Non, non.
Excel.
Ouais, non,
non.
C'est vraiment le même moteur graphique que Quake, presque sans prévu. Pratiquement un clone.
Un
clone. Peut-être non, c'était le moteur du R, pas du jeu.
On est obligé de faire
ça. Ah, c'est pas facile. On vient jouer un petit peu. Ah, ouais. Voilà, là, là, vous allez devoir donner votre langue de chat.
Je passe.
Attends, j'aime bien celle précise, mais.
Ah, le... tous les morceaux du jeu sont.
C'est justement ça pour les jeux.
Ah, ils ont été composés pour le jeu ou alors ça a été des anciens morceaux?
Je crois que c'est pas vrai.
Ou alors à l'époque on avait pas les pistes audio. Je ne sais pas
pourquoi. C'est la jeunesse en fait.
C'est en 8 bits,
c'est ça.
King Twin. Ah. Yes, King Twin. Life of Crime. C'était ça le classique qui avait fait. Il y a des tas de morceaux.
C'est pas pour rien que je redoutais ce moment. Hein.
Alors on va rester un peu.
J'aurais préféré trouver le groupe en fait. J'aurais pu trouver le groupe, mais j'aurais pas trouvé le jeu.
Alors. Ça, c'est un concert. Un concert dans un jeu vidéo. Un vrai groupe,
pas plus d'amis.
Hello my loyal servants. Listen.
Au hasard, brutale légende, non, non.
Though the hour's dark and the suffering goes on.
Aerosmith.
Just keep in mind, this world is sacred.
C'est pas du. Seigneur des anneaux.
Et si vous avez bien écouté, il a donné deux énormes indices.
Oui, mais on n'a pas
entendu les voir.
Le voir, le monde d'Ancaria.
Ok, bon, je passe.
Et quand on jouait au jeu, le jeu nous proposait de découvrir les armes, des armes spéciales, une hache qui devenait une guitare électrique, un bâton qui devenait le micro du chanteur, et quand on avait réuni toutes les armes, on avait droit à cette séquence qu'on entend. C'était un concert dans le jeu vidéo.
C'est un médium, là ?
Non. Un RPG.
Nice.
Le groupe, c'est...
C'est un quiz musical découvert. Hein.
Ah, c'est vrai. C'est un piège musical.
On compte pas les points parce qu'il y en a pas.
Hein. Moi, je
sais. Et c'est un vrai groupe allemand qui sort pratiquement plus jamais d'Allemagne, qui a fait...
Dormi.
Non, c'est pas l'ordi. Nous étions pas allemands.
Anuskrieg.
Le titre de la chanson, alors, le groupe c'est Blind Guardian. La chanson s'appelle l'histoire de Sacred.
Sacred.
Même pas. Eh non, c'est dans Sacred 2.
Eh oui.
C'est dommage, hein.
Ouais, j'étais pas loin.
J'étais pas loin. J'étais pas loin. Pourtant dans la chanson.
Ça va falloir s'entraîner maintenant pour les quiz musicales. Hein.
Voilà. Faut réviser le quiz.
C'est un petit peu original. Ah oui, des concerts un peu originaux.
Ah, mais j'ai pas joué. Ça gratte depuis 20 minutes.
Voilà. Alors, un autre morceau.
Là, je suis prêt là.
Alors là, encore un morceau, un groupe de. Le métal, on va dire, de rock. Alors, normalement.
On part sur de l'Amiga là.
Non. Un jeu où quand tu mourais, tu peux parler avec tout le monde. Tu te trompes quand même.
Tu me dis quelque chose, mais je ne sais pas de quoi.
Tu peux t'envoler, suivre tes camarades, et puis continuer la mission.
Opération Flashpoint.
Opération Flashpoint.
Quel magnifique et jeu.
Ah là là là.
J'en ai fait des voyages en mouette en
fait. Hein. Et il n'est-ce pas
très beau concept de mort d'ailleurs, j'aimais bien le système.
Non.
Opération Flashpoint.
Non, parce que c'est vrai que quand on parle de mouettes... Même pas une seconde avant que j'ai trop, ça s'en passe.
Allez, dernière.
Alors, une dernière. On va trouver un peu costaud.
Pour David.
On va changer.
Je vous rappelle que David fait partie de l'émission.
Complètement.
Non, non, pour le blind test, je suis actuellement en sang.
D'accord.
En fait, mon but, c'est de trouver. J'ai un an pour trouver un morceau au blind test. Voilà, c'est mon but.
FM, away from.
On va rester dans le jeu de guerre alors.
Commando.
Oh, alors là, je ne l'attendais pas moins.
Version CPC.
Version CPC, absolument.
Tout à fait.
On entend même les tirs.
Ah bah.
Parce que c'est une séquence qui réduit. Bon, celle-là, on peut la laisser.
Ouais.
C'est de la musique.
J'ai trop joué.
L'émotion dans cette musique.
Merci, l'homme, pour. Excusez-moi. Tous ces bons souvenirs.
Les larmes qui viennent aux yeux en écoutant ça.
Il manque le bruit de cassette.
On peut aller ici pour la finale.
Et sur cette belle musique, je ne suis pas sûr.
Mais... Qui connaît ici?
C'est obligé.
Mm-hmm. Bien sûr. Ah, sinon, j'ai pas tout le monde qui dit au revoir. Je peux pas quitter sur ça, hein.
Si.
Non.
Tu veux une musique de fin?
Oui, je veux une musique de fin.
Tu veux une musique de fin?
Pas du 8 bits.
Une musique de Game Over? C'est toujours le même morceau.
Ah bah oui, bah de toute façon, tout le jeu, 100% du jeu, c'était ça. Hein. La musique qui reboucle sans arrêt. C'est pas pour rien que je la connais pas, Pierre.
Nicky Boom.
Nicky Boom, forcément. Le Game Over de Nicky Boom.
Magnifique.
Hop là.
Yeah. D'ailleurs, dans l'Another Tester, ça paraît... Bah sur cette belle musique, on va se quitter. C'était la fin de ce 6e épisode de l'Another Podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission spéciale. On vous en dira plus. À la semaine prochaine et à bientôt. Salut.
Bye bye.
Salut.
Au revoir.